autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour notre dernière rediffusion de l'été. Nous avons choisi de nous interroger sur d'autres longueurs d'onde. Les ondes gravitationnelles, engendrées par la coalescence de deux trous noirs ou par la fusion d'étoiles à neutrons, ces événements astronomiques cataclysmiques font vibrer l'espace-temps, comme l'avait prédit Einstein il y a 100 ans. Sauf qu'en 100 ans, on est passé de la théorie, de la prédiction, à la détection de ces ondes, de ces fluctuations de l'espace-temps. Le fait de les avoir captées par 4 fois déjà sur Terre depuis 2016 est une véritable révolution astronomique qui ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers, comme nous l'avions expérimenté avec le physicien Thibaut Damour, l'un des grands maîtres de la théorie de ces ondes et de la physique des trous noirs, lauréat de la médaille d'or du CNRS pour sa contribution majeure à la détection de ces ondes gravitationnelles. Nous vous proposons de réécouter cet entretien sidéral et sidérant autour de la question « Pourquoi et comment détecter les ondes gravitationnelles ?» Bienvenue sur Terre. Bonjour Thibaut Damour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager un peu de cette physique des trous noirs et du rayonnement gravitationnel. Donc vous êtes l'un des plus éminents spécialistes de la relativité générale d'Einstein, de la cosmologie et de la théorie des cordes. Vous êtes physicien, théoricien à l'IHES, professeur des universités, membre des académies des sciences européennes et américaines, lauréat de nombreux prix scientifiques internationaux. Vous avez reçu, avec l'expérimentateur Alain Briet, Thibaut Damour, la médaille d'or du CNRS pour vos contributions à la détection des ondes gravitationnelles. Il faut dire que vous avez été le premier à prédire leur forme, la forme du signal de la coalescence de deux trous noirs. C'est vous qui avez soutenu le projet de détecteur d'ondes gravitationnelles présenté par Alain Briet. Vous saviez, Thibaut Damour, que l'on détecterait un jour ces ondes, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre, c'est comme ça qu'on dit, sur l'univers?
Oui, j'ai toujours eu confiance. Quand j'étais jeune chercheur, à 23 ans, j'ai rencontré Joseph Weber, l'Américain qui a initié le programme expérimental de détection des ondes gravitationnelles. Il avait déjà annoncé la détection des ondes gravitationnelles, mais du coup, d'autres groupes ont refait ces expériences et ont montré que ça n'était pas réel. Mais très jeune, j'ai vu que les groupes expérimentaux dans le monde prenaient au sérieux la détection des ondes gravitationnelles. Ils mettaient des nouveaux concepts, de nouveaux moyens. J'ai moi-même accompagné les premiers essais d'Alain Briet demandant un financement en France. Je savais que c'était un défi expérimental extrêmement difficile qui allait prendre quelques dizaines d'années, mais j'ai toujours eu confiance qu'on verrait la détection pendant que je serais encore actif scientifiquement.
Vous avez d'ailleurs consacré toute votre vie de chercheur à étudier la théorie einsteinienne de la gravitation qui vous a passionné et vous n'avez cessé d'interroger et de questionner les fondements même de la gravitation et donc de l'espace et du temps en commençant très tôt, à 14 ans je crois, par dénicher, faut le faire, une erreur dans un article d'Einstein, Thibaut Damour.
Oui, quand j'étais gamin, j'avais un grand frère qui avait 7 ans de plus que moi et qui m'apportait, il suivait des études universitaires de physique et il m'apportait des ouvrages de la bibliothèque universitaire à Lyon et aussi des articles. Et donc, assez tôt, j'ai étudié, quand j'étais encore au lycée, la théorie d'Einstein, j'ai lu des articles d'Einstein, dont certains sur justement le problème du mouvement de trous noirs. Ça ne s'appelait pas comme ça, c'est un article d'Einstein, on avait de 1938 et 1949, mais j'y ai appris des idées qui sont devenues importantes plus tard, après certaines améliorations, et dans un de ces articles, j'ai effectivement repéré une erreur, à la fois conceptuelle et technique, et une erreur mineure, parce que le résultat était finalement correct, mais ça m'a donné confiance en moi, ça montrait que je comprenais ce que je lisais.
Autour de la question, pourquoi Einstein avait parfois tort, mais surtout souvent toujours raison, et comment a-t-on réussi à détecter ces ondes gravitationnelles? On commence par quelques explications en ondes sonores, bien sûr, et avec le mix très gravitationnel et einsteinien d'Anthony Bellard.
Il est le génie de la physique, Albert Einstein. Il a ouvert la porte à un nouveau type de physique en publiant une nouvelle théorie sur la gravitation. Son idée révolutionnaire, la gravitation n'est rien de plus qu'une déformation de l'espace-temps.
Car oui, l'espace est dynamique, comme s'il était rempli d'une vaste gelée qui vibrerait lorsque des masses, des étoiles bougent.
Un des buts ultimes de la recherche des ondes gravitationnelles, c'est de faire une photo du Big Bang.
Les astronomes cherchent une solution. Ils pensent que pour déceler ces ondes, la présence de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre est nécessaire.
Car les déformations de l'espace-temps recherchées sont celles qui sont produites par les phénomènes les plus violents du cosmos. Collision de deux trous noirs donc, mais également explosion d'étoiles massives, fusion d'astres hyper denses. Les autres émissions d'ondes sont trop infimes pour être captées depuis la Terre.
Donc il faut imaginer ces deux mastodontes qui pèsent chacun plus de 30 fois notre Soleil, qui tournent l'un autour de l'autre 75 fois par seconde, alors qu'ils sont séparés de quelques centaines de kilomètres et qu'ils ont une vitesse qui commence à approcher celle de la lumière.
Un siècle après la théorisation de ces déformations de l'espace-temps par Albert Einstein, les scientifiques s'apprêtent à annoncer leur découverte.
Ce signal historique a été détecté indépendamment par les deux instruments de l'observatoire LIGO aux États-Unis.
Une équipe de plus de 1000 physiciens spécialisés dans les ondes gravitationnelles vient de réaliser une avancée historique.
J'avais été très frappé par l'enthousiasme, par l'investissement aussi financier qui a été fait pour, dans ces instruments gigantesques.
Virgo est le détecteur européen installé près de Pise en Italie. Associé à LIGO, Virgo permettra dès cette année de faire une triangulation des futurs signaux gravitationnels venus du cosmos.
Les distances qu'on cherche à mesurer avec Virgo ou avec LIGO, c'est des variations de distance d'un milliardième de la taille d'un atome.
Ces détecteurs gigantesques, construits en L avec des bras de plusieurs kilomètres de long, détectent la contraction et la dilatation de l'espace au passage d'une onde gravitationnelle.
Est-ce qu'on peut repousser encore les limites de ces systèmes de détection, sachant qu'on est déjà à des mouvements de fractions d'atomes que j'ai du mal à imaginer.
Thibaud Damour, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Jusqu'où pourra-t-on aller justement avec ces détecteurs gigantesques?
Juste d'abord un complément, puisque oui. Dans le texte qu'on vient d'entendre, on disait Virgo permettra, en se joignant à LIGO, en fait, au mois d'août dernier, 2017, Virgo a réussi à rejoindre à peu près la même sensibilité les détecteurs américains et à détecter deux sources différentes, la fusion de deux trous noirs, la fusion de deux étoiles.
Donc à détecter, oui, des ondes gravitationnelles. Et émanant de deux sources différentes qui n'avaient jamais été
faites. Voilà, et en particulier la dernière, celle de la fusion de deux étoiles à neutrons, est une première. Donc c'est beau que Virgo, le détecteur franco-italien, a réussi à rattraper le retard qu'il avait par rapport aux Américains et à rentrer dans la course et être là pour un des événements les plus excitants et les plus nouveaux, qui est cette fusion de deux étoiles à neutrons.
Donc. Alors on va revenir sur cette fusion de deux étoiles à neutrons, ce sont toujours des événements cataclysmiques, coalescence de trous noirs, fusion d'étoiles à neutrons. Vous l'avez dit, c'est LIGO et Virgo, c'est vraiment, Thibaud Damour, une collaboration en fait, parce que des ondes gravitationnelles, ça ne se détecte pas avec un seul détecteur, aussi gigantesque soit-il.
Oui, il faut de toute façon au minimum deux détecteurs et pour avoir confiance que ce que l'on voit dans un détecteur est réel, parce que le même signal arrive à peu près au même instant dans le deuxième, donc il y a un niveau de confiance statistique, et il en faut trois pour pouvoir trianguler et donc dire avec une précision acceptable d'où ça vient sur le ciel. Et pour les derniers événements, on voit qu'effectivement la participation de Virgo a permis de préciser l'endroit sur le ciel où s'était passé à très grande distance et dans le passé il y a très longtemps la fusion de deux étoiles à neutrons, et ça a beaucoup aidé à interpréter des données dans les rayons gamma et en optique qui ont vu aussi une source précisément dans la barre d'erreur sur le ciel. Et donc comme ça, on sait qu'on a vu un événement à la fois en ondes gravitationnelles et après, on en a vu de la lumière émise. Alors que toutes les fusions de trous noirs qu'on avait vues auparavant, des trous noirs étant des structures purement d'espace et de temps, de déformation extrême de l'espace-temps, il n'y a plus de matière. Les étoiles qui ont formé ces trous noirs ont disparu, elles ont été englobées et théoriquement même n'existent plus dans l'espace-temps, sont sorties de l'espace-temps. Donc le mouvement de deux trous noirs, même s'il est extrêmement rapide, il va à la vitesse de la lumière, n'émet pas de lumière. Ça n'émet que ça déforme l'espace-temps, ça crée des ondes de déformation de l'espace-temps, mais ça ne crée pas d'autres ondes comme la lumière. Pour émettre de la lumière, il faut qu'il y ait de la matière qui se couple à la charge électrique et qui donc crée de la lumière. Donc seule les fusions d'étoiles à neutrons ont, en plus du signal d'onde gravitationnelle, aussi des signaux optiques que l'on peut voir.
Et qui sont des signes qu'il y a très très longtemps, on va dire comme ça, dans l'espace-temps, il y a une déformation de l'espace-temps. Ces événements cataclysmiques prouvent la théorie d'Einstein.
La confirme, encore mieux, elle est déjà très bien confirmée, mais la confirme dans un domaine nouveau. Alors effectivement, ce qui est fascinant, c'est que l'idée essentielle, comme il a été rappelé, de la théorie d'Einstein, c'est de dire que l'espace, disons, pour être plus simple que l'espace-temps, l'espace, comme l'espace entre nous deux, n'est pas du vide dans lequel ont lieu les lois de la géométrie telles qu'on les a apprises à l'école. À l'école, on apprend que si j'ai un triangle, la somme des angles des triangles vaut deux droits, 180 degrés, ou pi, 3, 14, 16. Ça, c'est vrai dans l'espace rigide que les Grecs avaient mathématiquement inventé pour représenter le réel. Einstein nous dit que ce théorème des Grecs est vrai s'il n'y a pas de matière autour du triangle que l'on fait vraiment dans l'espace. Mais si j'ai trois points dans l'espace, si je forme le triangle en rejoignant ces trois points, et si au centre de ce triangle je mets une grosse masse, une boule de matière bien dense, eh bien la somme des angles ne vaudra plus 180 degrés. Elle va être un peu plus grande. C'est en ce sens très concret, vous voyez, que les lois de la géométrie, donc la structure même de l'espace, est déformée par la présence de matière dans le voisinage immédiat de l'endroit où on mesure ces angles ou ces longueurs. Et quand on a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, il faut imaginer que c'est comme deux énormes baleines, si vous voulez, qui tournent dans la mer. Elles déforment beaucoup l'eau autour d'elles. Ça bouge, ça remue, il y a des vagues. Localement, autour des deux baleines très proches, la déformation de la mer est très intense. Bien. Mais ça va créer une onde de déformation qui se propage en dehors du système, qui part à grande distance, et comme une onde dans la mer, une onde gravitationnelle, une onde de déformation de l'espace, décroît quand elle s'éloigne du système qui l'a produite, décroît comme l'inverse de la distance. Les fusions de trous noirs dont on parle ont eu lieu à 1 milliard d'années-lumière d'ici, ce qui est extrêmement loin. C'est pas notre galaxie, c'est pas la galaxie voisine, c'est pas la banlieue galactique, c'est beaucoup plus loin que ça. Du coup, l'onde gravitationnelle, qui, si on avait été juste autour des deux trous noirs, on aurait peut-être presque pu la voir. C'était quelque chose, la distance entre nous deux aurait varié d'une quantité qu'on pourrait presque voir à l'œil nu. Okay. Mais l'onde de déformation a décru lors de sa propagation. Et quand elle arrive sur Terre, effectivement, même avec deux objets séparés de 4 km, le changement de la distance entre ces deux objets, quand cette onde gravitationnelle passe, la déformation de l'espace est de l'ordre du milliardième de la taille d'un atome, c'est-à-dire, tout le monde dirait, c'est zéro. Eh bien non, ce zéro a été mesuré, il ne dure qu'un dixième de seconde, c'est une toute petite déformation, et ça prouve que très loin dans l'espace, et il y a très longtemps, un événement extraordinaire a eu lieu.
On continue de mesurer ces événements extraordinaires qui déforment notre espace-temps sur les bonnes ondes de RFI en écoutant Ron, Wave, vague électro-gravitationnelle.
Paris 89 FM.
Autour de la question. I can see you. I can see.
on prône Wave sur RFI autour de la question des ondes gravitationnelles en votre compagnie. Thibaut Damour, avec tout de suite une nouvelle question soulevée par le physicien du vide Michel Cassé, qui était récemment notre invité et qui vous interroge sur sa dernière détection, donc justement par Virgo, d'ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux étoiles à neutrons.
Je demanderai à Thibaut s'il pense que la collision de deux étoiles à neutrons est bien à l'origine de l'or. Parce que la théorie de la nucléosynthèse laisse supposer que l'or, ainsi que le platine et l'uranium, sont produits lors de la collision de deux cadavres stellaires, qui sont justement les étoiles à neutrons, qui par un coup de cymbale, dans leur collision, ont déclenché des ondes gravitationnelles qui ont effectivement été détectées.
Thibaut Damour, la collision de deux étoiles à neutrons détectées par les ondes gravitationnelles serait à l'origine de l'or.
Oui, vous savez que les éléments chimiques dont nous sommes faits, les éléments les plus légers comme l'hydrogène et l'hélium ont été faits dans le Big Bang. Beaucoup des éléments lourds jusqu'au fer ont été faits au centre des étoiles, à très haute température. Mais il y a, pendant longtemps, il y avait le problème, comment arriver à faire des éléments plus lourds que le fer, en particulier comme l'or, le platine, l'uranium. On ne peut pas les faire au centre des étoiles. Et donc, il y avait une théorie qui disait peut-être des collisions d'étoiles à neutrons vont créer un événement suffisamment violent pour créer ces éléments plus lourds comme l'or. Et effectivement, les données, non pas des ondes gravitationnelles, mais des ondes électromagnétiques qui ont été vues juste après que les ondes gravitationnelles aient dit il y a eu une collision de deux étoiles à neutrons, ont permis de confirmer les modèles qui disent que la réaction de fusion des deux étoiles à neutrons est suffisamment violente. Dans cette, les réactions nucléaires, avec certains processus dits rapides, permettent de créer de l'or. Donc effectivement, il est fascinant d'imaginer que lors de la fusion de deux étoiles à neutrons, dont chacune a une masse de l'ordre de la masse du Soleil...
Oui, c'est ça, c'est extrêmement dense.
C'est extrêmement dense, c'est extrêmement lourd, mais cette fusion crée, parmi beaucoup d'autres choses, elle crée quelque chose comme 10 fois la masse de la Terre en or et 10 fois la masse de la Terre en platine.
10 fois la Terre. La masse de la Terre en or et en platine.
Voilà.
Une
ça, c'est ce que les modèles disent. Bon, on n'a pas vu directement dit, hein, mais on a vu, les modèles sont confirmés. Donc, c'est effectivement une très belle chose d'y penser.
Oui, c'est extrêmement fascinant. Justement, est-ce que ce genre de choses, vous arrivez à vous en rendre compte, à mesurer ces échelles-là de matière, d'origine vraiment de notre univers, de notre monde?
Alors, en physique, pour imaginer les choses, il faut toujours les rapporter à d'autres choses. Donc, effectivement, 10 fois la masse de la Terre en or, on a l'impression, c'est incroyable. C'est par rapport à la masse de départ qui était 3 fois la masse du Soleil. C'est rien du tout.
En fait, c'est pas comme ça, oui.
Voilà, c'est
relativisons, moi.
C'est 30 000 fois plus petit, donc c'est une toute petite fraction, finalement, de l'ensemble des neutrons qui étaient en réaction nucléaire très violente. Une toute petite fraction a créé de l'or, du platine, etc.
C'est vraiment une nouvelle fenêtre sur l'univers et une autre approche de toutes ces questions qui sont toujours des énigmes quand même, sur l'origine de l'univers, sur la fusion, sur tous ces événements cataclysmiques qui nous ont précédés et qui continuent autour de nous.
Oui, on a appris avec un petit nombre d'événements, on a déjà appris des choses nouvelles et même parfois surprenantes. Par exemple, la plupart des gens pensaient que... on allait bien sûr observer des fusions de trous noirs. D'abord, on ne pouvait pas dire combien il y en aurait par mois, par an, à tel niveau de sensibilité. Et tout le monde s'attendait à ce que les trous noirs que l'on verrait fusionner auraient la masse que l'on voit dans tous les trous noirs dans notre galaxie, c'est-à-dire 10 ou 15 fois la masse du Soleil. Or, la première fusion observée, c'était des masses de 30 fois. C'est-à-dire nettement plus que ce qu'on attendait. Ça a été une surprise, même si certains théoriciens avaient prédit cela.
On est loin d'être au bout de nos surprises, au bord de ces gigantesques trous noirs, Thibaut Damour, au bord du vide. On écoute Jean-Louis Aubert remixer Michel Houellebecq carrément, Fluctuation du vide. Sur RFI, on n'a peur de rien.
RFI, la radio du monde.
De présence hostile. dans les corps, dans les villes. Matière destructible, embryon du néant, potentiel avorté, modalité du vide. La nature sortait de son rêve insipide et nous délimitions un rêve horizontal. Par le choc répété de nos pas sur les dalles, la nature souffrait sous un soleil rigide. Et nos regards glissaient sur les reflets du vide. Et nos regards glissaient sur les reflets.
RFI, les voix du monde. Jean-Louis Aubert et Michel Houellebecq sur RFI, fluctuation du vide, il nous fallait bien ça. Autour de la question des ondes gravitationnelles, en compagnie du physicien visionnaire Thibaut Damour, théoricien de l'espace-temps, lauréat de la médaille d'or du CNRS avec l'expérimentateur Alain Brillet, pour leur contribution à la détection des ondes gravitationnelles, une révolution astronomique en marche, que vous avez été, Thibaut Damour, le premier à prédire, après Einstein, évidemment, et sur laquelle vous interroge votre complice, le scénariste, écrivain et dramaturge Jean-Claude Carrière.
Mon cher Thibault, est-ce que tu as trouvé dans Proust des nouvelles des ondes gravitationnelles comme tu l'avais fait, rappelle-toi, à l'époque, dans les dernières pages de la recherche au sujet de l'espace-temps?
Alors, petit rappel pour nos auditeurs tout de même, l'espace-temps d'Einstein, déjà en germe, c'est vous qui l'aviez trouvé dans les dernières pages de la recherche de Proust. Y aurait-il aussi des traces, c'est ce que vous demande Jean-Claude Carrière, une intuition peut-être de Proust sur ces ondes gravitationnelles?
Non, je ne l'ai pas trouvé dans Proust, mais c'est vrai que je trouve toujours admirable que dans les années 20, les grands artistes comme Proust, mais aussi Dali, se tenait au courant des développements scientifiques et cherchait des convergences. Et Proust a explicitement écrit qu'il pensait qu'il avait, ou on lui disait qu'il avait une manière similaire à celle d'Einstein de déformer le temps. Et il cite nommément Einstein dans certains manuscrits en disant « très Einstein », mais ne pas le dire parce que ça confuserait. Donc aujourd'hui, malheureusement, à part des gens comme Jean-Claude Carrière qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en science, il y a un hiatus souvent entre la culture des humanités, la culture littéraire et la culture scientifique, et je le regrette, mais...
Parce que les intuitions des artistes, écrivains peuvent rejoindre parfois celles des scientifiques, ou est-ce qu'il y a dans le même temps sur la Terre pour des raisons peut-être à la fois techniques, à la fois intellectuelles, à la fois plus mystérieuses, des idées en germe qui peuvent naître ensemble.
Oui, ça peut exister. Certains auteurs certains scientifiques se sont par exemple aussi, je pense, nourris de science-fiction. La science-fiction est un médium qui permet de faire vivre des intuitions comme les voyages dans le temps qui sont sortis de la science ou qui ont été inventées par la littérature avant, et de maintenir leur virulence, parce que si vous ouvrez un traité de physique, on vous dit voyage dans le temps, ben ceci est possible, voilà, mais il n'y a pas le sens existentiel, alors que lire de la science-fiction, lire Philip K. Dick par exemple, peut vous donner un sens plus profond de ce qu'est un voyage dans le temps. Donc
surtout pour vous qui êtes théoricien, vous êtes un physicien théoricien, Thibaut Damour, donc vous nourrissez évidemment des expériences ensuite, de l'observation ensuite, mais vous êtes en amont.
Oui, Par exemple, sur d'autres objets comme les pulsars binaires, mais en particulier
les
sur
pulsars,
les ondes gravées.
Les pulsars binaires, allez-y.
Voilà. Bon, les pulsars binaires, ce sont deux étoiles à neutrons, du type de celles que l'on a vues fusionner récemment, mais 300 millions d'années avant qu'elles fusionnent, c'est-à-dire elles sont loin l'une de l'autre et elles tournent lentement l'une autour de l'autre. Et pour ce système, j'ai développé avec Nathalie Deruel, à partir de la théorie d'Einstein, nous avons montré que le fait que la force gravitationnelle entre les deux objets se propage par onde gravitationnelle justement à la vitesse de la lumière, veut dire qu'il y a un certain décalage entre la force qui agit sur un pulsar et celle qui a été émise par l'autre. Et on avait démontré que ce décalage fait que le système tourne de plus en plus vite l'un autour de l'autre, ce qui confirmait les observations. Voilà. Ce type d'étude théorique, quand j'ai réalisé que les ondes gravitationnelles allaient être détectées à partir des années 1984, quand j'ai réalisé à partir des années 1984 qu'un jour ça serait détecté, je me suis lancé avec plusieurs collaborateurs, dont Luc Blanchet, Alessandra Buonanno, à développer des théories, à partir de la théorie d'Einstein, qui permettent de calculer le mouvement de deux trous noirs et en particulier la forme de l'onde gravitationnelle émise. Donc ça veut dire pendant des années, vous travaillez avec les équations d'Einstein, vous travaillez avec des équations, vous les résolvez, vous essayez d'améliorer la solution, mais avec l'idée que le résultat théorique sera utile pour extraire le signal du bruit, parce que le signal d'onde gravitationnelle, quand il arrive sur Terre, est tellement faible, vous voyez, le milliard de la taille d'un atome qui bouge, c'est perdu dans le bruit. Et donc, il faut que la théorie vous dise la forme exacte du signal pour arriver à la sortir de bruit, pour la reconnaître. Et j'ai été très heureux, lors de l'annonce de la première découverte, de voir que beaucoup de mes travaux ont été cruciaux, en fait, pour pouvoir, une nouvelle méthode a été cruciale pour pouvoir détecter les signaux. Donc ça, c'est une grande satisfaction pour un théoricien
d'avoir
prédit la forme à l'avance, et que cette prédiction, qui a été ensuite améliorée par nous théoriciens et par des calculs numériques, que tout ça a permis non seulement d'extraire les signaux du bruit, mais surtout de mesurer la masse des deux objets et leur vitesse de rotation. Parce qu'on dit ces deux objets qui ont 29 fois la masse du Soleil et 35 fois la masse du Soleil. Mais pour arriver à mesurer ces chiffres-là, il faut avoir une connaissance théorique du signal en fonction de la valeur des masses.
Donc il y a la théorie d'abord, et dans les années 80, 1982, je crois que vous avez rencontré cet expérimentateur génial qui est Alain Briet, qui est lauréat avec vous de la médaille d'or du CNRS cette année pour l'élaboration de l'instrument Virgo. C'est ça qui a réussi à détecter ces ondes gravitationnelles.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Briet, qui est, dès 1979, qui est devenu un ami. Il cherchait un nouveau projet après avoir fini un projet de thèse. Et quand il a vu que certains collègues, en particulier écossais, utilisaient l'interférométrie, les lasers pour détecter les ondes gravitationnelles, je me rappelle visuellement l'avoir vu ce jour-là, leur donner des conseils en disant « Mais pourquoi vous faites les choses comme ci, comme ça ?» Visiblement, il avait compris que c'était des amateurs dans l'utilisation des lasers et la stabilisation des lasers, et que lui, avec toutes ses connaissances, il allait pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc, assez rapidement, avec un groupe autour de lui, il a proposé un premier projet qu'on avait supervisé avec un groupe de scientifiques, donc Claude Cohen-Tanouji en 1982. Puis après, c'est devenu un autre projet qui est devenu Virgo, donc qui n'a été approuvé qu'en 1993. Donc, vous voyez, c'est des grandes échelles de temps. 1982, premier projet. 93, Virgo est approuvé. Et il faut attendre de août 2017 pour que Virgo voit enfin des ondes gravitationnelles. Il faut ce temps long parce que c'est un défi expérimental extrême.
À propos de ce défi, Alain Briet ne pouvait pas être avec nous en studio, mais nous l'avons joint par téléphone. Je vous propose, Thibaud Damour, d'écouter son éclairage sur cette détection d'ondes gravitationnelles conjointe par l'interféromètre LIGO aux États-Unis et l'interféromètre Virgo qu'il a construit. Alors Virgo, ce nom renvoie à la constellation de la Vierge, mais aussi à un acronyme qui illustre bien le défi que cela a représenté. Comme vous le disiez, c'est le Very Improbable Radio Gravitational Observateur. Explication d'Alain Briet.
Avec Adalberto, mon collègue italien avec qui j'ai co-dirigé le projet pendant presque 20 ans, Bon, nous avions des doutes sur le fait que le projet serait financé un jour. Et c'est de là que venait le mot improbable.
Vous pensiez, Alain Brière, en concevant donc cet interféromètre et puis en obtenant le financement, vous pensiez un jour qu'il permettrait de détecter ces ondes gravitationnelles ?
Bien sûr, c'était l'objectif. Alors, avec la première version de Virgo, on n'était pas du tout sûr de voir quelque chose, et d'ailleurs on n'a rien vu. La première raison, c'est que même en prenant en compte les évaluations les plus optimistes des astrophysiciens sur l'amplitude de ces signaux possibles, on était juste à la limite de voir peut-être un signal par an. Et si on prenait les prévisions pessimistes, ça aurait été peut-être un signal tous les 100 ans. Donc on n'aurait pas du tout parié qu'on allait détecter quelque chose avec la première version. Mais nous savions aussi que la technologie fait des progrès et que quelques années plus tard, on pourrait faire un peu mieux et puis un peu mieux et qu'un jour, on y arriverait. Si on a pu faire du travail intéressant du point de vue astrophysique avec Virgo, c'est parce qu'il y a aussi deux interféromètres américains qui ont détecté en même temps que Virgo les mêmes signaux. Et c'est par la comparaison des signaux reçus dans les trois détecteurs qu'on peut déterminer la direction de la source du signal et beaucoup d'autres informations importantes pour l'astrophysique.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, Alain Brière, justement, quand Virgo a détecté le signal d'onde gravitationnelle ?
Bien sûr, c'était magnifique. C'était aussi le fait d'avoir l'impression qu'on n'avait pas travaillé pour rien pendant presque 40 ans.
Vous voulez réagir à cet éclairage d'Alain Brière, Thibaud Damour, vous décidément la persévérance, en même temps 40 ans pour l'échelle des physiciens et des astrophysiciens, c'est pas si long que ça.
C'est pas si long que ça, mais c'est vrai que dans le cas de Virgo et du côté expérimental sur lequel Alain Brière a apporté tant de concepts pendant très longtemps, ça veut dire que pendant 40 ans, on ne voit rien. Donc il n'y a pas des résultats intermédiaires. L'appareil marche de mieux en mieux, mais on n'a pas encore vu la chose. Donc il y a une
frustration. Et on ne sait pas si on la verra un jour.
Et on ne sait pas si on la verra un jour, parce qu'on ne sait pas vraiment le niveau. Donc il y a une certaine frustration. Moi, dans mon travail théorique, j'ai eu la chance, c'est pas que j'ai travaillé 30 ans sur les ondes gravitationnelles et rien d'autre en attendant que mes travaux soient utilisés. J'ai fait d'autres choses, sur les pulsars binaires, sur d'autres types de sources qui ont été observées dans l'intervalle. Donc, j'ai eu la chance. Par exemple, le premier article que j'ai écrit quand j'avais 23 ans, en décembre 1974, 20 ans plus tard, c'était une prédiction, elle a été observée. Donc, et j'avais déjà collaboré avec des expérimentateurs. Pour moi, la physique, c'est pas juste des équations. D'abord, Einstein nous a donné une nouvelle vision théorique de l'univers, mais mon but a toujours été d'en sortir des prédictions et de les confronter à l'expérience. Et j'ai eu la chance dans mon travail de le faire déjà plusieurs fois. D'avoir des nouveaux tests de la théorie d'Einstein, des confirmations, de voir des nouveaux phénomènes. Donc, je savais que les ondes gravitationnelles arriveraient un jour, donc j'étais moins angoissé qu'Alain de savoir quel jour ça arrivera. Je savais que ça serait très beau, voilà. Donc.
Mais vous pensiez que ça arriverait de votre vivant
parce
Oui. Ah oui.
Bon, peut-être que j'étais un peu naïf, ne connaissant pas le détail des difficultés technologiques qu'il a fallu surmonter, ayant vu le progrès. Rappelons tout de même que, par exemple, les premiers détecteurs par Joe Weber, qui étaient infiniment moins sophistiqués que ceux-là, mais qui voyaient déjà des ondes gravitationnelles à un niveau qui... pour l'objet qu'il regardait, qui était un gros cylindre de métal, correspondait à une vibration de la longueur de ce gros cylindre qui est en fait pas tellement plus grande que ce que voit Virgo aujourd'hui. C'est-à-dire il voyait des mouvements de la géométrie sur un mètre de distance aussi petits que ce que voit Virgo aujourd'hui, mais qui, interprétés en termes d'ondes gravitationnelles, étaient 100 000 fois moins sensibles. Donc il ne pouvait pas voir d'ondes gravitationnelles, mais ça montrait que des détecteurs pouvaient voir des choses déjà infimes. Donc,
vous dites voir, Thibaud Damour, que ces détecteurs, ces interféromètres pourraient voir. On a que ce mot-là hein, pour dire ça, pour quoi capter.
Sinon on dit détecter, mais un détecteur détecte, c'est pas très élégant.
mais pour vous, c'est quand même voir, enfin...
La sortie du détecteur peut être représentée sur un graphe, comme autrefois, quand, si vous avez des détecteurs de pression barométrique, bon, vous avez un cylindre qui tourne et vous voyez les variations de la pression barométrique. Donc là aussi, vous pouvez représenter graphiquement les fluctuations de la longueur des bras. Donc quelque part, vous voyez aussi les choses. Ce qui est vrai, il faut insister là-dessus, c'est que si vous regardez les données brutes, c'est-à-dire ce que vous voyez à la sortie des détecteurs, ce que vous voyez, c'est du bruit. Le signal d'onde gravitationnelle est 1000 fois plus petit que ce que vous voyez. Donc il faut aller le chercher, vous voyez, un facteur 1000, c'est-à-dire l'onde gravitationnelle est là, mais elle, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est
tout ce qu'il y a
du
autour,
bruit.
Tout ce qui empêche de la
du
voir.
Du bruit, oui, ce qui empêche. Et il faut aller chercher dans ces fluctuations des détecteurs, la longueur des bras de cet interféromètre, hein, ces grands bras de 4 km bougent un peu, il faut aller chercher ce qui est significatif, alors que c'est noyé dans des fluctuations qui sont du bruit, qui ne sont pas significatives.
Et est-ce qu'il aurait pu arriver aussi, alors c'est pas qu'Einstein se soit trompé, mais justement que l'on n'arrive pas à démontrer ce qu'avait prédit Einstein, ce que prédit la théorie. Est-ce que ça peut arriver, ça?
Dans le cas des ondes gravitationnelles, les pulsars binaires avaient déjà prouvé la réalité des ondes gravitationnelles.
On les avait pas captées, mais on savait.
Voilà, on savait qu'elles existaient, que la gravitation se propageait à vitesse de la lumière, qu'elle avait les caractéristiques prévues par la théorie d'Einstein. On savait non seulement que les ondes gravitationnelles existaient, mais qu'il existait des sources intenses d'ondes gravitationnelles, parce que justement, un pulsar binaire, on le voit, et on sait que dans 300 millions d'années, il va fusionner. Donc, on savait combien il y en a par galaxie.
On sait que dans 300 millions d'années, il va fusionner. Vous semble...
Et on sait combien il y a de pulsars binaires par galaxie. Donc, il y avait un minimum théorique qui consistait à dire, si on voit suffisamment loin, si on ne voit pas dans notre galaxie, parce que là, il faudrait attendre des millions d'années, mais si on voit des millions de galaxies à la
suffisamment loin dans l'espace, suffisamment loin dans le temps.
Pour avoir un million de galaxies, 100 millions de galaxies, dans le tas, il y en a une qui arrivera l'année prochaine ou le mois prochain. Ça, on le savait. La surprise a été de voir des fusions de trous noirs. Ça, on ne savait pas qu'il existait des systèmes binaires de trous noirs. Et finalement, les détecteurs du futur, quand ils auront amélioré leur sensibilité d'un facteur 3 par rapport à aujourd'hui, ils verront une coalescence de trous noirs binaires toutes les heures. Vous voyez ? Jusqu'à présent, c'était tous les mois que l'on voit, et à long terme...
C'est-à-dire que dans l'univers...
Non, pardon, je devrais corriger, oui. Si on améliore de 3 fois sa sensibilité, on verra une coalescence de trous noirs binaires tous les jours. Et puis, à très long terme, quand la sensibilité améliorera encore et qu'on verra toutes les fusions de trous noirs qui ont lieu dans l'univers, on en verra toutes les 5 minutes, en principe.
C'est-à-dire que toutes les 5 minutes dans l'univers,
voilà.
Il y a des coalescences de trous noirs.
Toutes les 5 minutes. Et les coalescences d'étoiles à neutrons, c'est sans doute 30 fois plus rare. Donc, à très long terme, il y en a toutes les heures ou toutes les deux heures.
On pourra observer constamment.
Nous sommes dans un univers très violent, finalement. Il y a des parties très calmes, mais il y a ces monstres de l'espace-temps, ces trous noirs, ces étoiles à neutrons, ces étoiles mortes, qui finissent leur vie de façon catastrophique. Il y en a pas énormément par rapport à tout ce qui existe, mais si vous prenez tout l'univers, vous voyez, c'est très violent.
Dans cet univers très violent, vous n'êtes pas que physicien, théoricien, Thibaut Damour. Vous avez d'autres cordes à votre arc, à part la théorie des cordes. Vous êtes aussi pianiste, on l'entend tout de suite avec cet extrait d'un magnifique Lied de Mahler. Donc c'est vous au piano avec la cantatrice Virginie Landré, qui est aussi l'épouse du porte-parole de la collaboration LIRGO, qui a détecté les ondes gravitationnelles.
LIGO.
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est Virginie Landré, la cantatrice. Donc, le monde physique et musical est décidément petit. On écoute Ich bin der Welt, Thibaut Damour au piano, Virginie Landré au chant sur RFI.
RFI à Paris, 89 FM.
Wie hat's so lange
Ich bin der Welt, extrait de ce merveilleux Lied de Mahler interprété par la cantatrice Virginie Landré et par vous-même au piano, Thibaut Damour, une très belle histoire de musique et d'espace-temps enregistrée en plus sur le piano de votre institut à l'IHES et en public.
Oui, et avec David Shoemaker prenant le son aussi. Bon, personnellement, comme je le disais tout à l'heure, je ne sépare pas les deux cultures, la culture musicale, littéraire et la culture scientifique. Donc j'ai toujours, pour moi, la musique m'a toujours accompagné toute ma vie. Bon, c'est un peu par hasard que cette cantatrice a épousé celui qui est le numéro un actuellement de LIGO, qui était un élève de Ray Wise. Mais en tout cas, la musique, l'art est important pour moi. Et ce lead, je dois dire, de Mahler, dont le sens veut dire je suis perdu au monde, je suis coupé du monde, est absolument sublime en fait.
Et rejoint vos préoccupations de physicien et vos interrogations de physicien.
C'est à part, c'est pas... Ouais. La physique, pour moi, c'est un domaine rationnel, uniquement rationnel. Mmh. Et même s'il se nourrit d'intuitions, d'autres choses, mais ça, je ne le sépare pas, ces intuitions. Et puis, il y a le monde personnel, métaphysique, philosophique et musical.
Autour de la question jusqu'où nous entraîneront les ondes gravitationnelles, je propose une nouvelle question tout de suite, Thibaut Damour, soulevée par Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace.
Maintenant que les ondes gravitationnelles issues d'événements violents comme des collisions d'astres, d'étoiles à neutrons ou de trous noirs ont été détectées, est-ce qu'on est confiant sur la détection prochaine d'ondes gravitationnelles dites primordiales qui viendraient de la formation de notre univers à la suite du Big Bang ?
Votre réponse, Thibaut Damour.
Non, on ne peut pas dire qu'on soit confiant. On est sûr qu'il doit exister un fond d'ondes gravitationnelles d'origine cosmologique émis à une ou plusieurs étapes du Big Bang, mais il est très difficile d'estimer son amplitude. Et du coup, les modèles les plus conservateurs, disons, prédisent en fait des amplitudes tellement faibles qu'il sera sans doute impossible à LIGO, Virgo de les détecter. En revanche, peut-être d'autres types de détecteurs, comme le chronométrage de pulsars binaires pourrait être plus sensible.
Chronométrage de pulsars binaires.
Pardon, de pulsars, pas de pulsars binaires, d'ailleurs de pulsars non binaires, qui consiste à observer. Bon, un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même et qui, donc, comme un gyrophare, émet un signal radio à chaque tour, parce qu'on voit le gyrophare quand il passe dans notre œil, là c'est des ondes radio, et du coup ça fait des horloges cosmiques extrêmement stables. Quand une onde gravitationnelle passe entre le pulsar et nous, il faut imaginer, vous voyez, l'espace étant comme une gelée, ça déforme la distance entre le pulsar et nous, donc les temps d'arrivée des signaux qui viennent du pulsar sont aussi déformés, n'arrivent plus avec une régularité d'horloge, une régularité suisse, mais ont une empreinte déformée par l'onde gravitationnelle. Donc c'est une façon de voir des ondes gravitationnelles à très grande période, c'est-à-dire qui durent un an ou 10 ans, etc. Mais on ne sait pas le niveau. Il y a aussi d'autres sources extrêmement importantes, si elles existaient, que LIGO Virgo pourrait détecter, comme des ondes émises par des cordes cosmiques, qui pourraient d'ailleurs être les cordes de la théorie des cordes. Plusieurs théories physiques prédisent que notre univers cosmologique pourrait être peuplé non seulement d'étoiles, d'étoiles morbes, d'étoiles à neutrons, de trous noirs, mais aussi de filaments énergétiques ayant une taille comparable à l'univers, qui oscille en gros à la vitesse de la lumière.
Et ces fameuses cordes.
Ces fameuses cordes. Et de temps en temps, on a montré avec Sacha Vilenkin que ces cordes forment comme un fouet que vous faites claquer. Il y a un point de la corde où ça claque, et du coup ça émet une bouffée d'onde gravitationnelle dirigée dans un petit angle. Si ça existait, ce type de corde cosmique, ces ondes gravitationnelles, ces bursts, ces bouffées d'onde gravitationnelle pourraient être vues par LIGO Virgo, mais il faut qu'elles existent. Mais en tout cas, ça montre que LIGO Virgo est au début, c'est le début d'une aventure scientifique. On a déjà vu que l'on voyait des sources qu'on ne connaissait pas.
On voit une amplitude, une violence ou une force dans les trous noirs qu'on n'imaginait pas.
On va en voir, on sait maintenant que ce qu'on a vu déjà dans le passé, il y a 5 sources détectées, on va voir quand la sensibilité sera meilleure, on les verra 10 fois plus fréquemment, parce que si vous augmentez la sensibilité d'un facteur 2 et quelques, il y a 10 fois plus d'événements tout d'un coup, donc on va en voir beaucoup. Donc ça va permettre de faire des statistiques sur la formation d'étoiles à neutrons de trous noirs, donc de faire de l'astrophysique et de l'astronomie. Mais il y a aussi la possibilité de voir des choses nouvelles, effectivement, comme un fond d'onde cosmologique ou ses cordes cosmiques, des surprises, donc de trouver quelque chose qui ne soit pas connu à l'heure actuelle.
Et à mon avis, ce sont ces surprises-là qui vous intéressent, Thibaut Damour, c'est ça. Pour vous, c'est formidable, cette fenêtre sur l'univers, mais en même temps, vous attendez des surprises, autre chose qu'on n'aurait pas démontré, prédit, imaginé.
Oui. Parce que, comme ça n'est pas... je suis attiré par les questions fondamentales en physique, et donc savoir combien une galaxie forme d'étoiles à neutrons, personnellement, c'est quelque chose d'intéressant pour l'astrophysique, mais pas pour moi en tant que physicien théoricien. Donc, en revanche, trouver quelque chose de nouveau grâce aux ondes gravitationnelles, vous me direz, je suis blasé parce qu'on est très content de tout ce qui a été découvert, mais trouver encore plus du nouveau serait très excitant pour l'avenir.
Merci infiniment, Thibaut Damour, vous reviendrez nous en parler quand vous aurez trouvé du nouveau, de l'excitant. On fait confiance à vos prédictions, prévisions et à vos théories. Merci en tout cas d'être venu en direct partager avec nous toutes vos recherches, vos interrogations et vos découvertes sur les ondes de RFI. Je peux renvoyer nos amis auditeurs à une bande dessinée, tiens donc, que vous avez écrite avec le dessinateur Mathieu Burnia aux éditions d'Argo, Le mystère du monde quantique. Et là encore, vous avez remporté de nombreux prix de bande dessinée et elle est déjà traduite en 6 langues dans le monde. Merci Thibaut Damour.
Merci à vous Caroline.
Je vous retrouve lundi en direct avec grand plaisir, amis auditeurs, pour une nouvelle saison d'interrogations tous azimuts à partager ensemble avec l'enthousiasme et la curiosité qui vous caractérisent. Vous pouvez bien sûr nous podcaster, nous réécouter à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Dans quelques instants, c'est l'heure des informations sur la radio mondiale.
Autour de la question @rfi.fr. Priorité.